pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Dimanche 29 janvier, c'était le second tour des élections de la primaire de gauche. 8000 bureaux de vote étaient ouverts de 9h à 19h. Benoît Hamon, on le sait, l'a emporté sur Manuel Valls avec 59% des voix. Ce jour-là, la participation est en hausse. Les enjeux semblent intéresser un peu plus les Français qu'au premier tour. Le lendemain matin, nous nous rendons donc dans nos trois places de la République, dans l'espoir, ou du moins dans l'idée, que sera commenté, apprécié, jaugé, revécu ou critiqué ce moment électoral pour savoir ce que la France en dit, en pense, bref, comment ça passe et ça se passe. Nous sommes au lycée Fourier d'Auxerre et c'est un jour d'exposé pour les terminales S3 dans la classe d'Annie Bellu, professeur d'histoire-géographie et accessoirement d'enseignement civique et moral, une matière au programme depuis 2013. Le sujet du jour est en plein dans le mille puisqu'il s'agit de la laïcité. Les élèves ont 5 minutes chacun pour s'exprimer sur le sujet. Le prof a posé une question subsidiaire à laquelle les élèves doivent répondre à la fin de leur exposé. Comment les candidats aux élections présidentielles abordent-ils les questions de religion et de laïcité dans leur programme ? À l'hôpital de Die, dans la Drôme, le lundi 30 janvier, nous sommes allés à la lingerie, rencontrer la lingère, Brigitte, qui en a des choses à dire sur les élections. Au tribunal de grande instance de Marseille, enfin, nous sommes avec la juge Delphine Belmontet, qui préside la 5e chambre couvrant les affaires familiales et pénales. Ce jour-là, toujours le 30 janvier, un homme de 43 ans est poursuivi pour des relations qui restent à préciser avec une jeune fille de 15 ans dans un camping. Le verdict mérite vraiment que vous écoutiez les pieds sur terre jusqu'à 14h sur France Culture. Place de la République, 9e épisode, s'appelle justement Le Verdict. Et c'est une série de notre trio intrépide, Pauline Mocor, Olivier Minot et Pascal Pascariello.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Choisissent à notre place, si nous on vote pas.
C'est ça. Donc nous, ça nous choisir aussi le représentant qu'on veut.
Oui. Monsieur, comment ça va depuis hier? Vous aviez quand même une super meilleure mine.
Vous trouvez que j'ai une meilleure mine?
Hier matin, vous étiez quand même.
Ensuite, oui, il y a eu hier soir un suicide d'un fonctionnaire de police. Alors un premier vol à main armée.
De toute façon, donc jeudi, il y a deux paires. Demain, il y a la prise de sang. Donc pour le moment, vous gardez.
Mademoiselle, vous preniez aussi les choses en main. Vous avez votre place et il faut vraiment y aller.
Lycée Fourier, bonjour.
Asseyez-vous.
S'il vous plaît, on a déjà commencé les exposés il y a 2 semaines. La méthode d'un exposé oral est celle d'une composition. Donc, votre exposé doit avoir une introduction, un développement de 2 ou 3 parties et une conclusion. C'est bon? On y va? Est-ce qu'il y a des volontaires? Non.
Je dis le début là, tu dis les 2 autres phrases, tu dis ça, je dis ça et après je mets... Si je fais ça, je fais les 2 premières, tu fais les 2 deuxièmes.
Omar, Anissa, on est parti.
Juste, on peut mettre un chrono, moi aussi.
Mais tu fais comme tu veux, Omar, y'a pas de souci.
Alors, notre sujet s'intitule l'islam en France aujourd'hui. Donc je laisse Anissa introduire...
Alors, je voudrais dire que la plupart des personnes ont tous des stéréotypes sur l'islam. L'islam, en tout, c'est une religion de paix, mais certaines personnes la vont dire, par exemple, que la femme doit se soumettre à l'homme, alors que c'est totalement faux. Dans aucun cas, on doit se soumettre à... les femmes doivent se soumettre aux hommes ou quoi que ce soit, que l'homme est égal à la femme. Certes, c'est vrai que l'islam, ça renvoie à la peur, à cause de tout ce qui se passe dans les attentats et tout, et ça fait beaucoup de clichés. Même moi, la première, si je vois un homme barbu à l'aéroport, j'ai peur. Hein, donc ça crée des stéréotypes, alors qu'il ne devrait pas en avoir. Alors que l'islam, c'est une religion de paix. Voilà.
Donc ensuite, faut bien savoir que l'islam, comme toute religion d'ailleurs, c'est une expérience de paix, d'amour, de respect et d'acceptation de l'autre dans la différence. Donc comment dire, il faut être en quelque sorte juste avec l'islam, parce que si des personnes revendiquent l'islam, mais commettent eux-mêmes des horreurs et sont des meurtriers, en aucun cas, ils sont représentants de cette religion, oui. De l'islam.
Bien. Je vous avais demandé, par rapport à vos exposés vendredi, je vous avais donné une question subsidiaire. Qui me rappelle quelle était la question subsidiaire?
Oui, je t'écoute.
Est-ce que le sujet que vous avez étudié est évoqué dans le programme des candidats à la présidence?
Ciel.
On y va? Alors, par rapport à ça.
Donc on a trouvé que Monsieur Valls, il aimerait faire un pacte avec l'islam. Et donc il est à peu près pour l'islam. Et par contre, il aimerait interdire le voile dans les universités.
Même s'il est déjà interdit.
Oui, même s'il est, c'est déjà interdit.
Oui. Parce qu'il y a Benoît Hamon qui, lui, il est plus souple. Il veut, par exemple, lui, il trouve pas qu'il y a de problème avec l'islam et qu'au contraire, on devrait accepter le voile dans les universités. On sait tous que Marine Le Pen, elle n'est pas vraiment pour. Elle sait qu'il y a trop de migrants, par exemple, qui rentrent en France et tout. Bon, ça, c'est vrai qu'elle n'a pas très tort non plus. Il y a Fillon. Ouais, François Fillon, lui aussi, il est, pour lui, c'est un problème lié à l'islam. Mais il est en même temps pour et en même temps contre. Enfin... Voilà. Je sais pas comment expliquer, mais je sais plus. Mais en gros, en fait, il est pour et il est contre. Enfin, j'ai pas compris moi-même comment ça a été expliqué, mais j'ai compris qu'il était pour et il était contre en même temps, quoi.
C'est ça qui m'intéresse. C'est que si toi, qui travailles sur le sujet, t'as pas compris, tu comprends bien que ça va être un problème. Parce que ceux qui renvoient son texte, est-ce qu'eux, ils comprendront? Je sais pas. D'accord. Ok.
Vous trouvez que dans le débat sur les présidentielles, on parle trop de religion?
On mélange politique et religion, alors qu'il faudrait pas mélanger politique et religion, c'est deux choses à part. La religion, c'est la religion, et la politique, c'est la politique. Mais je pense qu'ils s'en servent pour toucher les personnes. Ils vont parler de religion pour attirer les personnes, par exemple, à voter pour eux. Je crois que ça doit être François Fillon ou Manuel Valls qui dit ça, que, par exemple, l'islam, c'est un problème dans la République d'aujourd'hui. Bah, dans tous les cas, par exemple, si une personne, elle est raciste, elle va aller vers lui.
Vous savez pour qui vous allez voter?
J'ai des idées, mais j'aurais plus penché pour Benoît Hamon, mais je sais pas. Ça nous fait tomber dedans, parce que comme il parle de religion, nous aussi, regarde, c'est la preuve. Moi, ça va me pousser à aller voter pour lui, alors que les autres, je sais qu'ils sont contre, je vais pas aller voter pour eux. Alors que c'est dommage. Benoît Hamon, je sais juste qu'il parle de ça, mais je sais pas ce qu'il y a derrière. Et c'est juste ça qui m'a plu. Je vote juste par rapport à ce qu'il dit à la religion.
Je pense qu'il faudrait plus en parler en classe de la politique, parce que c'est le monde dans lequel on vit.
Si, moi je suis d'accord, la politique, on devrait plus en parler en classe, parce que le trois quarts des lycéens, personne n'est au courant de ce qu'est leur campagne, qui sont...
La preuve avec nous.
Donc après, quand nous on doit voter, on sait pas. Donc soit on va voter blanc, soit on va voter n'importe quoi. Donc il faudrait plus en parler en classe, ouais, je pense. On n'est pas assez informés.
Peut-être que moi je ne m'informe pas assez, mais je suis pourtant beaucoup sur les réseaux sociaux, comme tous les jeunes. Tout ce qui me tombe sous les yeux, je le lis, et s'il n'y a aucun article qui tombe sur lui, aucun article qui tombe sur aucun autre, ça c'est à eux de faire ce chemin-là. S'ils veulent être élus, ils n'ont qu'à le montrer, et venir communiquer, parler aux jeunes.
Et vous parlez de politique avec vos parents ?
Non, moi je ne parle pas de politique avec mes parents. Enfin, je sais que ma mère, elle s'en fout, elle ne va pas voter. Soit elle ne va pas voter, soit elle va voter blanc. Et mon père, il vote tout le temps les écologistes parce qu'il n'a pas envie que ce soit un vote blanc ou un vote qui part pour quelqu'un d'autre. Du coup, mon père vote tout le temps les écologistes. Parce qu'il n'est jamais d'accord avec les autres.
Non, je ne sais pas ce que votent mes parents et je n'ai pas envie de le savoir. Et puis, je pense que je ne serais pas forcément d'accord avec tous leurs propos. Donc, je pense que nos parents n'ont pas vécu à la même époque. Donc, la religion musulmane était beaucoup moins présente en France. Eux, ça leur change totalement. Nous, on vit avec des musulmans quotidiennement. Et ça, c'est normal pour nous. On n'a aucun souci avec ça. Et donc, pour eux, c'est quelque chose qui peut poser problème. Mes parents pensent que la majorité des gens qui font des conneries, donc c'est les Arabes. S'ils ont envie de voter Marine Le Pen, qu'ils aillent voter Marine Le Pen. Moi, je voterai ce qui me chante.
Vous savez quoi ?
En l'occurrence, là, non. Je pense voter blanc. Parce qu'il n'y a rien qui me marque. Je ne me reconnais pas.
Et quand vous entendez vos parents dire ça, vous essayez pas de les contredire ?
Dans ma tête, j'essaye. Mais du coup, dans ma tête, le scénario, il s'enchaîne. Et j'imagine qu'ils vont nous répondre « Toi, t'as 17 ans, t'as rien vécu par rapport à nous et tu connais pas, donc nous, on a forcément raison. » Mais ça va être leur premier argument. Est-ce que je pourrais les convaincre que les choses ont changé et que moi aussi, j'ai une expérience, mais qui n'est pas la leur ? Je vis avec des amis de toute religion, de toute couleur de peau et de toute avis politique. C'est la mixité sociale. Au contraire, je pense que c'est ce qui devrait faire notre force. Qu'on soit tous différents et qu'on arrive à construire quelque chose ensemble.
Se permettre de tuer des gens et dire qu'on est terroriste et qu'on fait partie de l'islam alors qu'on tue une personne innocente, c'est pas possible.
Il faut comprendre aussi que l'islam, c'est pas quelque chose de l'ordre du privé, mais de l'ordre de l'intime. Et l'islam en France, il a besoin justement des valeurs de la France qui sont les valeurs républicaines, laïques, démocrates, pour garantir le fait qu'on soit juif, chrétien, bouddhiste, musulman, qu'on puisse vivre tous ensemble sans aucun problème. Puis pour finir, et ben, enfin, on doit trouver vraiment ce qui nous rassemble, pourquoi toujours chercher ce qui nous sépare.
Alors non, je ne m'imagine pas avoir que des amis comme moi, c'est-à-dire blonds, grands, yeux bleus, et qui pensent exactement la même chose que moi, parce que ce serait chiant. Enfin, il faut de la mixité, pour pas que la vie elle devienne monotone. Et...
Comme il a dit, on sait vivre entre nous. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de problème entre que ce soit avec un juif, que ce soit avec quelqu'un d'autre. Alors que les vieux, c'est plus compliqué entre eux. Parce que je pense que c'est la génération d'avant. Avant, je pense que c'était peut-être chacun de son côté, ou peut-être c'était plus raciste que notre génération à nous. Pour moi, les vieux, ils gâchent tout. Pas tous, mais...
Non, pour moi, les vieux, ils gâchent pas tout. Ils ont leur mot à dire aussi, ils ont leur expérience. Donc, il faut savoir communiquer et écouter surtout, et comprendre. Faut comprendre. Je pense que c'est vraiment le mot, comprendre.
Hôpital de Dieu, bonjour.
3 et 2. 3 petits, 2 grands. Bon, alors je te les réserve pour toi. Non, j'ai des draps plats si tu veux mettre en dessous.
Ça sent bon chez vous, non? Ça doit...
C'est normal, on est dans une lingerie. Hein.
Comment vous faites pour vous retrouver dans tout ce linge là?
C'est une question d'habitude. Hein. Là, on prête le linge résident. Pour pouvoir après redonner tout ça et le distribuer dans les services de l'hôpital de Die. Vous avez aussi, vous voyez, des personnes qui n'ont pas de famille autour aussi, et malheureusement, on ne va pas les laisser dans la panade, hein, on leur nettoie le linge.
Je remets les serviettes.
Bon, c'est pas. Hein?
Je remets les serviettes, ouais. Dans
la liste. Si on peut aider les gens, on les aide. Voyez, on leur lave le linge, même si. Si ça n'est pas partie des prestations. Voilà, et on l'habille même. Hein. Parfois, on habille des personnes. Hein. Parce qu'on a des dons, donc automatiquement, quand ils arrivent, parfois... Non, je pense que... Il y a un hôpital très humain ici.
Donc, ça fait longtemps que vous faites ça?
Depuis 2008. J'ai intégré l'hôpital de Die. Je suis rentrée dans le service et... j'ai évolué. Et j'ai pris fonction de responsable de la lingerie. On touche dans les 1300 à peu près par mois, net. Ah, heureusement que j'ai mon mari qui est là derrière moi. Hein. mon mari est chauffeur poids lourd et lui, il ramasse le lait de chèvre, vous voyez, il ramasse le lait de chèvre. Puis, sur tout le monde dans la région, c'est vrai qu'on ne coule pas non plus sous les emplois. Hein. Il faut s'adapter à... Il y a des personnes qui sont bien diplômées et qui, malheureusement, n'ont pas forcément du travail dans leur branche, dans la région. Quoi. T'as quoi, toi, comme diplôme?
Moi, j'ai un DUT technico-commercial.
Voilà, j'ai travaillé en lingerie. Comme quoi que on prend ce qu'on a. Voilà. Puis bon, il faut se dire que tous les droits que les anciens se sont battus pour qu'on ait, qu'on nous les enlève de plus en plus. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a été un petit peu déçus par le Parti Socialiste. Donc on se dit, on va aller... Mais on fait que ça. On a fait Sarko, on a fait Hollande. Peut-être que là, on va faire la droite. Après, on va revenir vers la gauche. C'est... Là, quand vous voyez Fillon, lui ont trouvé un cadavre dans le placard, là, avec sa femme... ils sont tous copains et puis après ils se cherchent tous des trucs pour pouvoir être au pouvoir. Je pense que la place, ça doit être bonne. Ça ne doit pas être le salaire d'une lingère. Comme de Trump, là, on n'arrête pas de parler de Trump, ceci, Trump, cela. Trump, qu'est-ce qu'il fait, lui? Bon, il a bloqué les frontières, il a interdit des pays d'arriver chez lui parce que pour les attentats. Bon, est-ce que c'est une bonne décision? Peut-être, hein, je ne sais pas. Hein. C'est sûr que s'il y a des personnes qui ont de la famille et qui viennent leur rendre visite et qui ne peuvent pas rentrer dans le pays parce que... Mais bon, c'est vrai qu'avec les attentats, dernièrement, ça fait beaucoup de mal, ça. Marine Le Pen, ça sera un Trump pour la France. Quel désastre on va avoir au cas où. Ou elle soit élue, ou peut-être on sera peut-être dans le bonheur, je ne sais pas. Les gens la montrent un petit peu brute de pomme, et comme puis son père aussi, avec les nazis et tout ça, il le montre un petit peu. Donc on se dit, si la fille, elle veut passer au gouvernement, mais qu'après elle soit un petit peu comme le père, c'est ça le souci. Après, bon, quand elle a des idées, elle les a comme les autres politiques. Hein. Elle veut sauver la France, elle veut faire plein de choses. Et si ça marchait, je ne sais pas. Franchement, parce que comme je dis, on ne sait plus à quel sein se vouer. C'est pour ça que moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la même, dans le même objectif que moi. Hein. Ils n'en ont plus. Ils ne savent plus. Moi, je sais que parfois, les politiques peuvent faire du mal... peuvent mettre des vétos parfois sur des choses qui pourraient être bien, hein. Pour des décisions, des choses comme ça, et sans regarder ce qui est derrière. Nous, on a très peu d'accouchements sur l'hôpital de Die, et ça coûte énormément d'argent à l'hôpital de Die. Et malheureusement, il y a des personnes qui veulent garder absolument cette maternité sans savoir les conséquences qu'il y a derrière. Et là est le problème. Parce que quelque part, tout cet argent qui est demandé, c'est aussi répercuté sur le personnel de Die. C'est-à-dire que, bon, étant donné que c'est un besoin d'argent pour qui inclut quand même un pédiatre tout le temps, un anesthésiste tout le temps, un gynéco, un bloc, et tout ça, ça coûte pour le peu de naissances qu'il y a ici. Et bon, bah, l'enveloppe de début d'année permettrait peut-être, en enlevant cette maternité, de permettre au personnel de ne pas faire des heures comme on fait en ce moment, parce que malheureusement, on est en difficulté financière. Vous voyez, donc toujours en mouvement, toujours du travail.
Donc là, vous avez fini de plier, les serviettes partent sur des grandes corbeilles.
Voilà, après on va les mettre de côté en distribution pour la réception du mercredi.
Aujourd'hui, on est le 30 janvier.
Oui. Vivement le printemps. C'est pas pour la révolte que je dis vivement le printemps, hein, comme les autres. Hein, je dis vivement le printemps pour le soleil, pour un petit peu plus de végétation et que les jours se rallongent et que ça met la bonne humeur.
France Culture, les pieds sur terre.
Veuillez vous lever, s'il vous plaît, le tribunal.
Alors... les dossiers, les codes, voilà, ma robe. Bon, ouais, en audience.
Alors, je suis Delphine Belmonté, je suis juge au tribunal de grande instance de Marseille. J'occupe depuis septembre 2014 des fonctions pénales. Et cette année, je suis présidente donc, d'une comparution immédiate une fois par semaine, c'est le vendredi. Et de la présidence de la cinquième chambre, qui est la chambre consacrée aux délits familiaux et pénaux. Je mets ma robe, je mets mon rabat.
Ça signifie quoi pour vous ?
D'endosser la robe ?
Je suis fière. C'est une façon de prendre une autre posture. On n'est plus nous-mêmes, on est un magistrat. Et c'est important, on sait qu'on rend la justice au nom du peuple français.
Donc, dossier numéro 16.
Monsieur, allez avancer, s'il vous plaît. On vous reproche, monsieur, d'avoir le 30 août 2016 sur le territoire national, depuis un temps non couvert par la prescription, étant majeur, exercé une atteinte sexuelle sur madame mineure de plus de 15 ans, avec cette circonstance qu'il a abusé de l'autorité que lui confère sa fonction en l'espèce animateur du camping. Donc, bien, monsieur, on va aborder les faits aujourd'hui que vous avez... reconnu, c'est par contre effectivement des circonstances particulières. Alors, la mineure explique que, bon, elle vous connaît puisque vous étiez l'animateur du camping, que vous étiez passé un peu plus tôt dans la soirée voir les jeunes auprès desquels vous faisiez des animations, c'était la fin de saison, et que vous aviez laissé à ces jeunes vos coordonnées et votre page Facebook pour justement qu'ils puissent évaluer votre travail au cours de leur séjour dans ce camping. Cette jeune fille, alors, qui vient juste d'avoir 15 ans, est ce soir-là toute seule au camping avec sa sœur un peu plus grande, mais qui est elle aussi mineure, sa sœur. Sa sœur, elle est partie, on va dire, fricoter avec son petit copain d'été un peu, laissant sa jeune sœur toute seule dans un bungalow où là, il y a deux adultes qui sont là et qui sont alcoolisés. Et c'est d'ailleurs de cette façon qu'elle va vous envoyer un texto pour dire qu'elle sent que la situation lui échappe, qu'elle se retrouve avec deux adultes majeurs un peu alcoolisés qui, de façon graveleuse ou non, lui font en tout cas des avances. Et ça s'est établi tant dans son audition que dans la vôtre, c'est qu'au début, vous lui donnez des conseils, à savoir ne reste pas avec eux, va-t'en, enfin, vous ne vous proposez pas en tout cas dans un premier temps, comme chevalier servant. Vous finissez par vous retrouver, vous lui expliquez en plus que, ben, vu votre position d'animateur, vous n'avez pas tellement à être vu avec elle, compte tenu de sa minorité. Là, elle raconte que vous lui avez fait un câlin, que vous vous êtes assis, vous vous embrassez, et vous commencez à vous frotter à elle, c'est ce qu'elle dit. Et ça va être le seul point sur lequel vous êtes en désaccord, c'est qu'elle, elle dit au bout d'un moment que vous êtes retrouvée, et ça vous le dites allongé, vous vous dites c'est elle qui est venue se mettre à califourchon sur moi, elle, elle dit pas du tout c'est lui qui m'a attirée à lui, et elle, après, elle part du fait que vous, vous seriez déshabillée pour commencer un acte sexuel, et qu'elle vous aurait dit mais non, moi j'ai jamais fait ça, et qu'en tout cas, immédiatement, tout s'était arrêté. Et vous, vous contestez le fait d'avoir voulu avoir un acte sexuel avec elle. Elle, elle maintient que vous auriez sorti votre sexe, mais que devant son refus, vous ne seriez pas allé plus loin, n'obligeant à rien et comprenant. Qu'est-ce que vous avez à dire, monsieur, par rapport à ça?
Moi, je maintiens effectivement que j'ai embrassé et je ne sais pas ce qui m'a pris ce moment de... où je t'ai perdu, et effectivement, je n'ai jamais sorti mon sexe. Elle était sur moi, et je ne sais pas pourquoi elle raconte ça. Je ne l'ai pas touchée, je ne l'ai pas déshabillée, mais je regrette énormément, et je demande mes excuses auprès de cette jeune fille, de mon comportement, ça aurait pu être ma fille, et je ne comprends pas.
Mais ce qui est troublant, d'abord, c'est l'absence de cette jeune fille aujourd'hui. Ce qui est troublant, c'est quand même les SMS qu'elle vous a envoyés toute la soirée. Moi, la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'à un moment donné, vous avez senti comme une sorte de piège?
Alors, je me sentais responsable d'aller l'aider, mais je n'avais aucune arrière-pensée, sachant qu'elle a insisté à venir au mobil-home et j'ai totalement refusé. C'est pour ça qu'elle m'a donné rendez-vous, on s'est donné rendez-vous au terrain de pétanque, à l'extérieur. Et je ne sais pas ce qui s'est passé par la suite, quand elle est venue vers moi pour m'embrasser.
D'accord.
Voilà, ça s'est enchaîné pendant peut-être un quart d'heure, mais voilà.
Elle a une vie un peu particulière, on apprend beaucoup de choses dans sa biographie à cette jeune fille. C'est que visiblement c'est une jeune fille qui se cherche. Elle s'était déjà à 12 ans rapprochée d'une prof d'éducation physique, donc il y avait quand même aussi ce lien d'autorité avec ce professeur. Et qu'effectivement, elle en était à l'abreuver de lettres, de présents, à tel point que l'enseignante avait fini par en parler aux parents et que ça avait coupé court et que ses parents avaient très mal réagi, en fait, à cette histoire. À 14 ans, elle a effectivement une relation amoureuse avec une jeune majeure féminine de 18 ans. Et là aussi, la réaction des parents a fait que cette jeune fille, visiblement, a été en grande souffrance psychologique, au point d'avoir des comportements d'automutilation et de scarification. Bien. Alors, monsieur, je vais vous demander de vous asseoir.
Madame le procureur, nous vous écoutons.
Merci, madame la présidente, madame, monsieur du tribunal. Les faits, on l'a entendu, on l'a constaté, sont reconnus par monsieur, qui a d'ailleurs éprouvé et éprouve encore des regrets et de la culpabilité pour la jeune victime qui n'est pas là aujourd'hui. Jeune victime, vous l'avez rappelé, madame la présidente, en pleine quête identitaire, sexuelle. Alors, les choses se seraient peut-être arrêtées là, en tout cas d'un point de vue judiciaire, puisque au moment des faits, elle avait 15 ans. 15 ans, c'est la majorité sexuelle. Mais le problème dans cette affaire, c'est que c'est pas n'importe qui dans le camping, c'est un animateur. C'est même l'animateur en chef de ce camping. Alors, évidemment, il est très facile dans ces conditions d'abuser de cette position d'autorité, de ce statut, face à une jeune fille de 15 ans qui est particulièrement vulnérable, comme l'a rappelé la psychologue qui l'a examinée. Et il n'a pas 17 ans, il n'a pas 18 ans, il n'a pas 19 ans, il a 43 ans. Il est même père de famille, il a deux enfants. À 43 ans, on doit être capable de résister au charme d'une jeune fille de 15 ans, qui pourrait être votre fille. On est un homme, pas un animal, on est un adulte, on est responsable, surtout quand on a été militaire pendant 18 ans, et comme disait Albert Camus, un homme, ça se retient. Alors, en plus, et je terminerai par là, ces faits n'ont pas duré 10 minutes ou un quart d'heure, ils ont duré près d'une heure et demie. En une heure et demie, il avait le temps de réfléchir et de se dire « je suis en train de faire une grosse bêtise, on arrête tout ». Je vous demanderai évidemment de le reconnaître coupable. Néanmoins, au vu de sa prise de conscience, de son examen psychiatrique aussi, qui n'a révélé aucune pathologie, aucune dangerosité, une obligation de soins ne me semble absolument pas nécessaire. Au vu de tout cela, je vous demanderai de le condamner à une peine, sachant que cette infraction est punie de 3 années d'emprisonnement, de le condamner à une peine de 5 mois d'emprisonnement assortie d'un sursis simple. Et je vous demanderai à titre complémentaire de lui interdire pendant 5 ans d'exercer toute activité professionnelle ou bénévole qui le mettrait en relation avec des mineurs.
Le délibéré sera rendu après la suspension. C'est reprise, vous pouvez vous asseoir. Monsieur le tribunal vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés. En répression, on vous condamne à 5 mois d'emprisonnement totalement assorti du sursis simple. C'est au-dessus de votre tête pendant 5 ans. Si vous commettez une nouvelle infraction, ce sursis peut être totalement ou partiellement révoqué. Sinon, au terme des 5 ans, la peine est réputée non avenue. Le tribunal prononce également l'interdiction de toute activité professionnelle ou bénévole en contact avec les mineurs pendant une durée de 3 ans. Le tribunal prononce une dispense d'inscription de cette condamnation au bulletin numéro 2 de votre casier judiciaire et prononce également la confiscation des scellés qui doit être l'audition de la mineure.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, place de la République, 9e épisode, un reportage de Pauline Mocor, Olivier Minot et Pascal Pascariello, réalisé par Cécile Lafont. Merci aux élèves de Terminale S3 du lycée Fourier d'Auxerre et à leur professeur d'histoire-géographie Annie Bellu. Merci à Brigitte et Francine de l'hôpital de Die, à Delphine Belmontet au tribunal de Marseille et à la présidente Isabelle Gors. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre. Melville Letellier et Jeanne Boisec, ce sont nos stagiaires.